Popopienne, Popopien et tous les autres aussi, bonjour. Sale temps pour les mouches, Yvette s'en est allée. Yvette, la grande Yvette, la flamboyante Yvette, la paradoxale Yvette, héroïne populaire devenue égérie Jean-Paul Gaultier, Yvette, l'impératrice de la musette vénérée par Boy George, Yvette, la reine de la petite reine qui anima tant de Tours de France, solidement arrimée sur le toit d'une traction avant Citroën, coiffée d'un sombrero mexicain pour éviter l'insolation, insensible aux intempéries et à la brutalité des dénivelés, souriant imperturbablement en pliant et dépliant son accordéon magique pour la plus grande joie des insectes estivaux qui venaient se fracasser contre son irréprochable râtelier. Oui, sale temps pour les mouches. Yvette, qui s'était rendue dans la Mecque de la musique country à Nashville pour enregistrer avec le légendaire Charlie McCoy un album de musique campagne. Yvette, qui reprit du Bowie et du Michael Jackson sous la houlette de Quincy Jones. Yvette, enfin, et ses 30 millions de disques vendus. C'est un pan de notre patrimoine qui vient de s'effondrer, voilà pour la mauvaise nouvelle. Un chantier de moins pour Stéphane Bern, voilà pour la bonne. Heureusement, nous avons aujourd'hui un autre monument historique pour nous consoler et le meilleur des guides possibles pour le visiter.
France Inter.
Popopop.
Antoine de Caunes.
À mes côtés, une autre fan d'Yvette, Charline Roux. Bonjour Charline.
Bonjour Antoine.
C'était vous ça ?
Oui.
Ah, d'accord. Bonjour, mais désolé, vous n'avez pas le talent d'Yvette.
Ah bah c'est pas un full-time job non plus. Hein.
Au menu de Popopop, ma cousine, ma voisine, celle qui nous rend fou, Bécassine. Alors non, nous ne recevons pas Chantal Goya, mais Denis Podalydès pour nous parler de Bécassine, le film qui donne vie au personnage de BD de notre enfance. Bonjour Denis Podalydès.
Bonjour.
Et bienvenue dans Popopop. Vous aussi, elle vous rend fou, Bécassine ?
Bécassine, elle ne me troublait pas. Profondément, jusqu'à ce que Bruno m'en reparle. Je l'associais plus ou moins à l'époque de l'enfance de ma grand-mère. Mm-hmm. Un peu comme vous tous, non, il me semble.
Vous voulez dire que j'ai la même enfance que votre grand-mère. C'est ce que vous êtes en train de dire.
Je reprends ma phrase.
Il est très chatouilleux sur les questions d'âge.
Oui, je comprends, mais je comprends parfaitement.
Pas chatouilleux.
Non, mais il faut préciser, pas du tout. Je pense qu'on a une grand-mère qui, on a eu chacun une grand-mère qui était à peu près dans les mêmes, qui a dû s'intéresser à Bécassine à la même époque.
Ok. Évitez de dire ça en me regardant dans les yeux, ça ira beaucoup mieux. Au menu également de Popopop, un détour par la planète des gamers pour parler de E3, le plus gros salon de jeux vidéo au monde. On en parle tout à l'heure avec celui qui porte la salopette et la moustache aussi bien que Mario, la moustache surtout Ronan Crowe. Voilà pour le menu de Denis Podalydès. Je laisse à celle qui joue la marquise de Grantaire dans le film le soin de lancer cette émission.
Bonjour, c'est Karine Viard. Popopop, c'est parti.
C'est la première fois qu'une marquise lance Popopop. Bref, Popopop, c'est parti. Et Denis, il existe ici une question qui fait encore plus mal que des coups de tapette à mouche en pleine tête. Tapette à mouche, un accessoire très utilisé dans votre film. Bref, oui. Cette question, c'est... Denis Podalydès, pour vous, c'est quoi la pop culture ?
La pop culture a un visage pour moi. Mm-hmm. C'est le visage de mon oncle Olivier. Alors, ça ne vous dit pas, vous, ici présent, grand-chose, mais mon oncle Olivier, je rattache toujours immédiatement la pop culture aux années 70. Mm-hmm. Et donc, mon oncle Olivier, dans les années 70, avait les cheveux longs, il avait des rouflaquettes, il avait des pattes d'eff, et il maniait la peinture, et il faisait des tableaux qui ne représentaient rien, et c'était des grands jets de peinture, et la gouache était épaissie, il sortait des morceaux de tubes qu'il ne délayait pas sur la toile, ce qui me fascinait. Il en consommait des quantités énormes, et ça faisait des espèces ou de pizza, soleil écrasé, et tout en écoutant Donovan, notamment, et les Beatles.
Il prenait des substances, votre oncle ?
Je crois qu'il en a un tout petit peu pris, mais peu, très peu à Versailles, ça ne parvenait pas jusque-là, ou très peu, ou de manière extrêmement lénifiante, sous forme de petites pastilles de menthe un peu excitantes.
Et on peut voir ses pizzas quelque part ?
Alors ces tableaux, je sais pas parce que j'aimerais lui demander ce qu'il en a fait. Je crois que j'en ai gardé un quelques années, puis un jour quelqu'un a jeté ça en disant mais qu'est-ce que c'est que ce machin. Mais je pense que pour moi ça éblouit, ça colore toutes ces années-là. C'est un jet très fort de couleurs suintantes.
C'est ça la pop culture pour vous, Denis Podalydès.
Je me demande. Mais c'est le visage, et à travers ça, le visage de mon oncle, que j'adorais, que j'adore toujours, parce qu'on était tout le temps fourrés dans sa chambre. Et le magazine, lui, pardon. C'était peut-être que je voulais en arriver
tout,
là.
Tout ça en même temps.
Tout ça.
Les doubles centrales du
le
magazine, lui.
Magazine, lui. Alors ça, c'est de la pop culture.
Ah
non,
oui,
enfin, quand même.
Bien sûr.
Et
mais
Bruno
pas
et moi, on déchirait quelques pages, pas même pas forcément les plus chaudes, pour que mon oncle ne s'en rende pas compte. Donc des pages avec des femmes, ça, je me rappelle d'une femme en salopette, nue sous sa salopette. Donc on voyait rien en fait.
Mais la salopette quoi.
Oui, bien la salopette que j'ai retrouvée sur Coluche après, parce que quand j'ai vu découvert le personnage de Coluche, la salopette m'a refait penser
à
cette fille-là.
Elle avait une charge érotique formidable.
Eh ben exactement.
Vous allez adorer Ronan Crowe qui vient faire les jeux vidéo.
Eh bien merci pour ces premières confessions extrêmement intimes, Denis. Ne bougez pas, on va parler de pop, de culture et de pop culture dans la suite de cette émission, mais juste d'abord un morceau signé de la Californienne Shannon Shaw. Ça s'appelle Broke My Own.
Just leave me behind and go and get on. My worst enemy is my own flesh and bone. Don't worry about this heart of mine. It's been busted for a long, long time. You'll only find static on the line. So hang up the telephone.
Broke My Own, j'ai cassé le mien, un morceau de Shannon Shaw, extrait de l'album Shannon in Nashville, car Shannon était à Nashville. Donc vous écoutez Pop Pop Pop, l'émission de pop culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon... Et nous sommes aujourd'hui en compagnie d'un président de la République. Mais de quel président s'agit-il? Eh bien, réponse avec son pop portrait présidentiel. Alors un pop portrait, ben, c'est votre portrait, Denis, mais...
À base de pop, 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 pop,
et c'est signé Charline Rourourourou, et je pense que nous sommes la seule émission capable d'associer la Marseillaise et NTM.
Oui, on est les seuls à avoir essayé en tout cas. Aujourd'hui, nous recevons un metteur en scène, scénariste et comédien dont l'œuvre tout entière a accompagné ma jeune vie de vingtenaire. Trentenaire. Ok, quarantenaire. Nous recevons un invité avec qui je me trouve beaucoup d'affinité. L'homme ici présent a joué une bonne partie de ma bibliothèque, hein, puisqu'au théâtre, il a été Alceste et Philinte dans Le Misanthrope, Octave dans Les Fourberies de Scapin, Don César de Bazan dans Rublas, Harpagon dans L'Avare ou encore Arlequin dans Les Fausses Confidences. Au ciné, il a été Rouletabille deux fois dans Le Mystère de la Chambre Jaune et Le Parfum de la Dame en Noir, mais aussi sous la direction de cet excellent réalisateur dont j'oublie le nom à chaque fois. Il a été Jacques Attali. Bon, j'ai pas dit non plus que j'avais lu tous les livres dans ma bibliothèque. Hein. Ça, c'était dans Coluche, l'histoire d'un mec. Il a été Auguste Lumière dans Chocolat. J'ai pas lu ses livres, mais je vais beaucoup au cinéma. Il a été Césarisé pour Embrasser qui vous voudrait de Michel Blanc. Moi, c'est à peu près ce que je fais dans toutes les soirées arrosées. Je devrais peut-être pas le dire. Il a été Nicolas Sarkozy dans La Conquête. Là, j'avoue, j'ai pas le lien. Je l'ai pas. Il a été Titi dans Palais Royal et J'aime les couronnes. Il a été le contrôleur aérien dans Da Vinci Code et J'adore le Louvre, qui n'est pas loin d'ailleurs, de Palais Royal. Coïncidence, je ne crois pas. Il joue aujourd'hui dans Bécassine et comme je suis picarde, je me sens hyper concernée. Donc vraiment, Denis Podalydès, je crois qu'on était fait pour se rencontrer.
Mais oui, mais le costume de Bécassine est picard.
Mais je le sais.
Absolument. Et elle le sait, croyez-moi, ça ne lui a pas échappé. Hein. Pendant la projo, elle était là, toute fierotte, à dire voilà,
c'est chez moi,
c'est mon costume. Denis Podalydès, je m'imite dans votre vie privée pour savoir ce qui vous fait vibrer, c'est l'heure de votre popliste. Normalement, il y a un jingle, alors je vais vous faire.
Ah oui, c'est ça.
Pop, pop, popliste. Ça marche aussi bien. Bon. Nous avons demandé de choisir un livre, un film, une musique, une série et un jeu vidéo. Et pour le film, vous avez porté votre choix sur Brian De Palma avec Phantom of the Paradise. Je rappelle le pitch, hein. Winslow Leach, jeune compositeur inconnu, tente désespérément de faire connaître l'opéra qu'il a composé. Swan, producteur et patron du label Def Records, est à la recherche de nouveaux talents pour l'inauguration du Paradise, le palais du rock qu'il veut lancer. Il vole la partition de Leach et le fait enfermer pour trafic de drogue. Bande-annonce.
20th Century Fox presents Phantom of the Paradise, a gothic horror story.
What was that?
A beautiful love story.
Like a circus.
A cinematic odyssey through the rock universe. Phantom of the Paradise.
There really is the Phantom.
Pourquoi ce choix de patron de la belle véreux de Denis
Podalydès? Oui, c'est un peu... Parce qu'en fait, j'ai un souvenir très entêtant et assez désagréable de ce film qui m'avait beaucoup dérangé. Je me rappelle de cette scène où le personnage se fait écraser la tête sur une plaque de disque.
Mmh. Hein, c'est une presse
ça.
À disque.
Une presse à disque. Ça m'avait terrorisé. J'étais quand même grand. Hein. Je suis pas si vieux que ça quand j'ai vu le film.
J'avais 38 ans, quand même.
Mais c'est vrai qu'il était très criard, ce film. Ouais, c'est pour ça que je l'associe sans doute à pop culture. Mm-hmm. Toujours ces jets de couleurs, sans forme.
L'oncle pizza.
Ouais. Non, mais tout ça, c'est...
Il a trop mal visé.
Il y a une cohérence dans tout ça qui est en train de se dessiner. Ça tapisse comme ça un fond de mémoire assez dégoulinant. Quel était l'acteur qui jouait? Je ne me souviens absolument pas de son nom.
Il y avait le Williams là. Paul Williams, non?
Qui jouait le... Je serais incapable de... D'ailleurs, quand vous avez dit le... C'est Brian De Palma, c'est ça?
Oui, c'est Brian De Palma.
Mais je ne me souvenais pas. Je me souviens que du titre et de ses impressions à gros jets, comme ça.
Bon, on va retrouver le nom de l'acteur. En attendant, on continue avec le livre. Comme livre, vous avez choisi ce
Paul
que
Williams,
je...
tout à fait. Ah,
Paul Williams, ouais.
Et je le savais.
Je connais pas du tout.
Vous avez choisi ce que je crois comme livre. Un livre écrit par Gilbert Cesbron et paru en 1970. Alors, d'après l'éditeur... Je cite, hein. En même temps que l'inventaire d'une vie, ce livre apporte un autoportrait de son auteur, une plaidoirie en faveur de l'homme, un réquisitoire contre un siècle qui l'avilit et le cri d'une irrépressible espérance. Écoutez juste un instant Gilbert Cesbron répondre à une interview, c'était en 71.
Je m'en remets souvent, trop souvent sans doute à l'arbitrage des larmes, impérieuses, mystérieuses, obstinées comme des eaux naturelles, source insolite ou lent débordement, il se pourrait que selon l'expression de l'apôtre Paul, cette infirmité... fit ma force. Ce ton n'est pas courant dans la littérature aujourd'hui.
Non, parce qu'on peut-être on n'ose pas avouer ce genre de faiblesse. Mais je pense que face au siècle actuel, il faut rameuter toutes les forces de cœur et de tendresse et de compassion, parce que il s'agit de faire contrepoids à quelque chose de terrifiant et d'invivable.
Alors, Denis Podalydès, moi, Gilbert Cesbron, j'en étais resté à Chien perdu sans collier, un écrivain plutôt catho, et le
sentimentalisme bien pensant dans son gigantisme presque, et je me rappelle de...
Vous me conseillez d'y retourner, donc?
Non, ça m'est revenu parce que, alors, en pleine pop culture, c'était une sorte de contre-exemple. Et je ne sais pas pourquoi, toutes les tables, dans les aumôneries, il y en avait partout des Gilbert Cesbron. C'était, alors, j'ai vécu et grandi beaucoup dans un milieu catholique. On allait à l'aumônerie. Donc, Cesbron revenait tout le temps. J'avais un ami qui aimait beaucoup ça. Et j'avais lu ce fameux Ce que je crois. Et qui m'avait paru si bête que je m'étais senti une âme révolutionnaire en lisant ce livre-là, et il avait une phrase que je trouvais complètement grotesque, il disait « j'aime, donc je suis ». C'était que des choses comme ça, à faire pleurnicher les petits chiens. Mais enfin, je pense que c'était un homme par ailleurs remarquable, mais c'était aussi un écrivain qui était très connu. Le Chien perdu sans collier, ça avait été un film avec Gabin, je crois.
C'était un best-seller.
C'était un best-seller, oui.
Jean Gabin et Paul Williams, je crois. Et Tonton Pizza, bien sûr. Bien, passons à la série. Et pour la série, vous avez choisi ceci. Ceci, c'est évidemment amicalement vôtre, hein, une série créée par Robert S. Baker, diffusée entre 71 et 72 en Angleterre, avec Tony Curtis et Roger Moore. Et vous auriez pu citer Game of Thrones ou Casa de Papel, je sais pas moi, mais non, amicalement vôtre.
J'aurais pu citer Casa de Papel et Game of Thrones dans la pop culture. Oui. C'est pop culture.
Ah bah oui, bien sûr. Bah
alors moi, j'ai un concept qui est trop situé dans le temps, en fait. Mm-hmm. C'est forcément une époque. Oui, bah amicalement vôtre, beaucoup à cause de la voix de Tony Curtis. Mm-hmm. La voix française. La VF de Tony Curtis.
C'était Michel Roux, non
C'était Michel Roux. Oui. Et j'aimais énormément Michel Roux, notamment doubleur. Je trouvais qu'il mettait un humour dans le personnage de Tony Curtis. Mmh. Et j'aimais énormément la classe de Roger Moore. Cette paire d'amis me faisait rêver. J'aurais trouvé formidable d'avoir un copain comme ça, hyper british, ou un copain américain. Et puis avoir des tas d'aventures policières et féminines en même temps.
Alors que vous deviez vous contenter de Bruno, votre frère,
dont on va longuement parler. Qui était une sorte de mélange des deux
dans quelques instants. Bon, ensuite, je vous ai demandé une chanson et là, vous avez choisi l'opéra rock La Révolution française. Comédie musicale qui raconte l'histoire fictive, hein, bien sûr, d'un amour impossible entre Charles Gauthier, député de Paris pour le tiers-état, et Isabelle de Montmorency, contrainte de fuir avec la famille royale. Écoutez-moi ça.
Va changer de main.
Vous le connaissez par cœur, je vois le chanter en direct en même temps. Quoi.
Mais oui, on a écouté ça avec Bruno, mais pendant des mois entiers, on le chantait en même temps. J'ai des airs qui me reviennent souvent à la fin de la douche. J'ai remarqué que c'est le moment où moi, sans doute vous, peut-être, vous reviennent les chants les plus anciens.
Bien sûr, toujours.
Voilà. Et ben alors, il m'arrive de « Abat tous les privilèges » de chanter ça. On se retourne vraiment de quoi, de quel privilège tu parles.
Mais c'est très étonnant ce chanter déclamé, en fait, là, qu'on vient d'entendre.
Oui. Très... Bah, je crois qu'on n'avait aucun recul. Donc c'est même pas qu'on trouvait ça beau. Et puis en plus, je crois que l'album, c'était en même temps une bande dessinée, et je crois que c'était dessiné par Gottlieb. Mais un dessinateur comme ça, et il y avait des moments chauds, notamment l'assassinat de Marat par Charlotte Corday. Et Charlotte Corday avait une sorte de décolleté infernal, et elle entrait, et c'était en ombre chinoise même, sensible. Ouais. Hein. Ouais. Et elle arrivait, et puis elle disait « Bonjour citoyen Marat, oh bonjour Charlotte Corday, comment vas-tu »« Oh je vais bien citoyen Marat », et là il lui disait « Oh, comme tu as de beaux seins, Charlotte.
Ah oui,
oui citoyenne. Oui. Comme tu as de beaux seins, citoyenne. Mm-hmm. Et alors cette phrase-là, là, on était obligé de faire une pause avec Bruno.
Ah bah tous les privilèges.
Alors on était à fond sur la.
J'ai une passion pour l'opéra rock en général. Par exemple, si je vous passe ce bout-là, qu'est-ce que vous me dites?
Je sais pas ce que c'est.
C'est Mozart.
Mozart l'opéra rock.
L'opéra rock. Ah, il y a un côté kitschissime dans l'opéra rock qui est... Moi, je me rappelle d'un Hamlet de Johnny Hallyday.
Oui,
ils l'ont pas repassé aux funérailles. Hein. Oui, c'était quelque chose, ça. Et, non, c'était fabuleux.
C'est vrai qu'il a chanté Hamlet.
Mais oui, ouais. C'était un pareil.
Et d'ailleurs, pourquoi pas Bécassine, l'opéra rock? Ça aurait eu de la gueule aussi.
Pourquoi pas? Mais attendez, l'histoire n'est pas finie, elle ne fait que commencer.
Denis Podalides, terminons cette pop-liste avec le jeu vidéo. Et là, vous ne choisissez pas un jeu, mais vous choisissez Intellivision. Alors, une console sortie en 1979. Écoutez la pub de l'époque.
Entrez dans un nouveau monde. Le le monde fascinant des jeux vidéo Intellivision. Intellivision, jouez et voyez. Voici Star Strike d'Intellivision, la bataille de l'espace que vous rêviez de vivre. Combattez les envahisseurs dans un vertigineux champ de bataille et tirez au but. Mais si vous échouez, la planète Terre sera détruite.
C'est le son.
Ça ferveille, hein.
Ça, c'est le son d'un télévision, là. Nous, c'était un jeu de tennis, mais qui était mortellement ennuyeux.
Oui.
Qui était cafardeux.
Sans son, en plus.
Oui, sans son. Il y avait deux raquettes, comme ouais, ça, ouais, qui ouais, descendaient ouais, de l'écran, et il fallait renvoyer, et la balle allait très lentement.
Oui, je me souviens.
Ouais.
C'est le principe de Pong, en fait, non?
Hein?
C'est comme Pong, ouais.
Oui, c'est Pong. C'est sur les premiers.
C'est ça. Voilà. Les premiers Mac. Alors, c'est je crois que c'est le seul jeu vidéo auquel j'ai joué.
Bien. Alors, je résume. Phantom of the Paradise, Gilbert Cesbron, Amicalement Vôtre, La Révolution Française et Intellivision. Je mets tout ça dans mon mixeur de pop culture et ça nous donne ça.
20th Century Fox presents Phantom of the Paradise.
Face au siècle actuel, d'abord, il faut être soi.
Entrer dans un nouveau monde.
Il faut rameuter toutes les forces de cœur et de tendresse.
Combattre les envahisseurs dans un vertigineux champ de bataille et tirer au but.
Bien sûr, nous ferons notre devoir. Toujours soucieux de ne pas vous décevoir.
A beautiful love story.
Il s'agit de faire contrepoids à quelque chose de terrifiant et d'invivable.
C'est bien, il a raison, vous devriez le garder.
Bien, ça ponctue, oui.
Ah ouais, ça ponctue très, très bien.
Ça sert comme jingle, vous avez raison.
Ah mais
il
ouais,
a raison,
il a raison
à chaque fois. Donnez des idées, là. Bon, c'est la petite musique qu'on entend dans la tête de Denis Podalydès.
Oui, hein, bah, oui, oui, bah, oui, quand j'ai des doutes, je me mets ça, moi.
Très bien. Denis, avant de parler de Bécassine, le film de votre frère Bruno, on écoute Juliette Gréco nous chanter Bécassine, justement.
Ah. On va pas s'embêter, hein. Elle est née un beau matin dans un berceau de bois. Son père et sa mère étonnés n'en revenaient pas de voir cet enfant bien rose et dodu à la fois, avec un nez qu'on ne voyait pas. Aussitôt tout le village se préparait déjà pour venir fêter ce beau baptême. Oui mais voilà, ici il fallait trouver un surnom qu'elle n'avait pas. Mais c'est papa qui se trouvait là. A dit puisqu'elle ira en classe, ici à clocher les bécasses, moi j'ai trouvé comment il faudra l'appeler. Bécassine, c'est ma cousine. Bécassine, on est voisine. Quand je m'en vais voir ma grand-mère qui habite au bord de la mer, je retrouve ma bécassine en même temps au bout de la terre. Bécassine et la cousine Marie qui louche m'amuse beaucoup. Ensemble on fait les 400 coups. Bécassine, tu nous rends fou. Bécassine, tu nous rends fou. Bécassine, c'est ma cousine. Bécassine, on est voisine. Quand je m'en vais voir ma grand-mère qui habite au bord de la mer, je retrouve ma bécassine qui m'emmène au bout de la terre. Bécassine, et ma cousine, Marie qui louche, m'amuse beaucoup. Ensemble on fait les 400 coups. Bécassine, tu nous rends fous. Bécassine, tu nous rends fous.
Juliette Gréco qui reprend Bécassine, c'était en 1981 au tribunal des flagrants délires et c'est aujourd'hui en 2018 dans Pop Pop Pop, toujours sur France Inter. Denis Podalydès, nous voici donc aujourd'hui à parler de Bécassine, le nouveau film de votre frère Bruno, dans lequel vous jouez non pas Bécassine mais Aldebert proéminent. D'abord, est-ce que l'idée de vous faire jouer Bécassine a traversé, ne serait-ce qu'un instant, l'esprit fantasque de votre frère ?
Et c'est ce qu'il a dit dans une interview en ma présence. Mm-hmm. J'en doute un petit peu, j'en doute un peu, mais en même temps, c'est ce genre d'idée qui peut l'avoir traversée, mais elle n'est pas restée.
Vous l'auriez accepté ?
Oui, sans barguigner.
Ça fera peut-être l'objet d'un
une suite. Deux.
Pourquoi pas de la suite, oui. La The vieille Return. Bécassine, je pourrais faire la vieille Bécassine.
Ceci dit, il y a une constante dans votre collaboration avec Bruno, hein, il le dit, la seule question qui se pose à chaque fois, c'est quel personnage va-t-il interpréter ? C'est-à-dire, vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé d'y aller. Et là, est-ce qu'il y a eu une hésitation quant au personnage ? Je ne parle pas de Bécassine, mais est-ce qu'il a été question que vous en jouiez un autre ?
Alors, quand il a écrit le scénario, il savait qu'Emeline Bayard jouerait Bécassine. Et quant aux autres personnages, il les a écrits et il a fait sa distribution en pensant à un groupe d'acteurs et un peu c'est un principe de chaise musicale. Et puis pour pas se contraindre à trop surdéterminer les personnages avant. Et puis ensuite, il a réparti. Mais j'aurais pu faire un autre rôle. Mais à l'arrivée, je trouve que c'est parfaitement distribué.
Bécassine avec un point d'exclamation de Bruno Pedalides, ça sort le 20 juin et ça donne ça.
Ce soir, grand spectacle de marionnettes internationales. Guignol et ses amis arrivent pour votre plus grand plaisir.
Croyez-moi, ce sont toujours des charlatans. Vous leur donnez ça et vous prenez ça. Il va nous faire passer le chapeau trois fois, vous allez voir.
Oh, mais maintenant qu'il est dans la place, et puis il n'a pas l'air bien méchant. Hein?
Comme le disait à l'instant Charline, vous jouez dans tous les films de votre frère. C'est quelque chose de l'ordre de l'évidence pour vous, Bruno Pedalides ?
Ah, vous avez dit Bruno Pedalides.
Pardon, Denis.
Mais ça, c'est... Bah voilà. Oui, mais la réponse est contenue dans la question. C'est de l'ordre de l'évidence. Il y a un côté, moi c'est lui c'est moi. Oui, pour moi, c'était... C'est-à-dire, à un moment, il a été possible que je n'y sois pas dans celui-là pour des raisons d'emploi du temps. Et ça m'a paru insupportable. Alors on s'est démené et pour que ce soit compatible.
Je suis le plus mauvais psychologue du monde, hein, mais jouer avec son frère, est-ce que c'est pas une manière comme une autre de retomber en enfance, voire d'y rester ?
D'y retomber, oui. D'y rester, malheureusement, on joue pas tout le temps ensemble. Mais c'est incontestablement, c'est lié à l'enfance lointaine. On a vécu ensemble, enfant, dans un jeu partagé constant. Une succession de jeux, mais c'était toujours très organisé et totalement partagé. Donc quand on retrouve ça, c'est immédiatement, c'est vraiment un moment d'enfance. J'ai l'impression que le tournage s'est fait pour recréer ce moment dont je me raconte ça comme ça. Par exemple, la scène d'échange de tapette à mouche, on se tape dessus, on a basculé dans une pure sensation importée des années 70, pop culture.
Aucune tapette à mouche n'a été blessée, j'espère.
Non.
Il y a une autre scène dans le film, hein, celle dans laquelle on vous demande si la petite Loulotte est votre enfant. Et ben, de cette scène, votre réalisateur et frère donc dit que vous éclatez, je cite, d'un petit rire ridicule. Il rit comme une de nos vieilles tantes, un petit rire très pincé. Est-ce que vous vivez tout au long du tournage beaucoup de ces petites complicités privées ? Et puis, bien sûr, est-ce qu'on peut réentendre ce petit rire pincé, celui de votre vieille tante ?
Alors, comme je ne me souviens pas très bien, à vrai dire. Je n'ai vu le film qu'une fois, alors... Je sais pas ce que c'est, mais en pensant au personnage, je pense énormément à ma grand-mère. Ma grand-mère, pour moi, quand je perçois le couple Monsieur Proéminent et la marquise de Grantaire, jouée par Karine Viard, je sens ma grand-mère toute présente, à la fois ce mélange de lui, inspiré de son, elle avait un côté, c'était une femme qui comptait l'argent et qui s'y entendait très très bien et qui était très prévoyante matériellement. Et puis elle, une certaine loufoquerie, une liberté d'esprit aussi, un côté fantasque. Alors ça fait un couple et je pense que ce rire qui m'est venu totalement spontanément, c'est pour ça que je suis pas du tout capable de le refaire, je ne le vois pas du tout exactement, c'est que ce petit rire a dû me venir de là. Ça vient de la source directe, là. Ça vient de ma grand-mère.
Vous parliez de votre grand-mère, mais justement, dans la BO du film, se cache une Madeleine de Proust. Bruno, votre frère, donc, pas vous, a retrouvé un disque de musique grecque de votre grand-mère, un disque ramené d'Athènes qui sonne comme ça. Là, c'est difficile de ne pas retomber en enfance, non ?
Ah oui. Bah là, surtout, je revois parfaitement ce 45 tours. C'était une pochette en papier de très mauvaise qualité qui est très vite un peu déchirée. Il y avait des deltas, la lettre delta dessus. C'était une sorte de vert pistache fané. Et on a écouté ce 45 tours, pareil, comme la Révolution française. D'ailleurs, c'est quasiment à la même époque, en fait. J'aurais pu le mettre aussi comme musique de la pop culture. Mais ça aurait été difficile à retrouver, là, pour vos services.
Et alors, avec vous, dans Bécassine, une bande de fidèles, Michel Villermoz, Isabelle Candelier, Jean-Noël Brouté, Philippe Huchan, comme au théâtre, au ciné, vous avez l'esprit de troupe ?
Oui, bah, d'ailleurs, ce sont des acteurs qui jouent en ce moment dans Le Triomphe de l'amour qui commence vendredi au Bouffe du Nord. Il y a Jean-Noël Broutet, il y a Dominique Parent qui fait le père qui louche. Isabelle Candelier, Emeline Bayard ont joué dans Le Bourgeois Gentilhomme que j'avais monté. Philippe Huchon, on est de la même promotion du conservatoire. C'est un acteur que j'aime infiniment. Donc, oui, il y a une passerelle entre le théâtre et le cinéma évidente. Enfin, je me pose même pas là.
Vous avancez groupé.
Oui, Bruno et moi, il me semble que les distributions, elles sont peut-être un peu plus éclatées. Mais Bruno, tous ces acteurs-là se retrouvent quasiment dans tous les films.
À propos de cinéma, il y avait une version précédente en 1940 de Bécassine. Écoutez ce que ça donnait.
Interdire, hein.
Dites, mademoiselle, vous n'êtes pas la nièce à Corentin, par hasard?
Mais pas par hasard, je suis sa nièce parce qu'il est mon oncle.
Alors c'est vous?
Un rendu très différent hein, de votre version à vous, et pourtant le film est sorti en septembre 40 et déjà il avait été l'objet d'une indignation générale des Bretons qui estimaient que ce film déshonorait la Bretagne. Qu'est-ce qui se passe à chaque fois qu'il y a un Bécassine qui sort? Pourquoi tout le monde est si tendu?
Bruno tient à dire d'ailleurs que c'est quelques Bretons parmi un ensemble de Bretons qui sont très favorables au film, qui l'ont accueilli à Rennes, à Quimper, c'est plus la troisième ville de Bretagne. Donc c'est très groupusculaire la réaction. Bécassine est un symbole du racisme anti-breton dans les vagues d'immigration bretonne de la fin du 19e, je crois. C'était une façon de caricaturer toutes les femmes qui arrivaient, qui travaillaient souvent comme bonnes. À Paris ou dans les grandes villes. Et ensuite, ça a été allé. Je crois que les Bretons ont associé Bécassine comme ça à une sorte de stigmate. Mais là, c'est totalement ridicule et branton, parce que quand on voit le film, non seulement en plus, Bécassine est quand même un personnage très très positif, au grand cœur, volontaire, intelligente, en plus qui invente, qui est même novatrice.
Et sa naïveté est absolument pas liée au fait qu'elle soit bretonne, en fait.
Mais pas du tout, c'est même pas dit, je crois, dans le film qu'elle est bretonne, quelqu'un qui est pas
Elle est picaresque. Elle est même pas picarde, elle est picaresque.
Oui, bravo. Mon frère était très content de cette petite blague dans la bouche de Michel Villermoz.
La fille de Romy Schneider s'est manifestée récemment dans les médias parce qu'elle n'aime pas le portrait que le film Trois jours à Quiberon fait de sa mère. Vous, ce sont donc les Bretons, enfin une partie des Bretons, au motif que le film serait une insulte à la mémoire du peuple breton. Pourtant, le film se passe pas à Quiberon.
Pas du tout. Oui, ça c'est vrai, j'avais pas pensé à ça.
Bah oui.
Ça se passe. Mais Quiberon, c'est en Bretagne.
Ah oui, un petit peu, oui.
Ah oui. Et donc, j'avais pas compris que Sarah Biasini se révoltait contre la Bretagne.
Mais elle est pas dans le film.
De Quiberon. À Quiberon?
Non, de Bécassine.
De Bécassine? Non.
Non. Oui, bah c'est non. Ça, c'est ce que je pensais.
Vous m'avez perdu. Vous en parliez, ce triomphe de la gentillesse contre le cynisme, finalement, c'est presque punk comme parti pris en ce moment.
Ah oui. Oui, c'est vrai, ça.
Mais c'est pas trop dans l'air du temps, en
non,
fait.
Non, c'est pas. C'est un côté Gilbert Cesbron, ça, qui revient à travers le film. Il est mort, Gilbert Cesbron, je pense. Oui, oui.
Il y a des chances. Enfin,
oui. Non, si je pense à sa famille.
Très bon état.
Non.
Mais non, mais écoutez, non. Ça fait très longtemps, Gilbert Cesbron. Vous
posez Gilbert Cesbron, non, il aurait 120, 130.
Oui, je lui souhaite, oui. Ouais. Je lui souhaite. Est-ce que Romy Schneider aurait pu jouer Bécassine?
Ah, mais jeune, oui. Ben quand on la voit dans Sissi, c'est un petit côté Bécassine autrichien. Sissi. Enfin, j'ai pas un film Sissi en tête.
Mais Sissi, ça se dit pas Sissi en autrichien.
Sissi.
Mais Bécassine n'a jamais été impératrice.
Ben Bécassine, c'était l'impératrice des Godiches. Hein. C'est comme ça que. Oui, c'est pour ça que les Bretons sont fâchés.
Enfin, une partie des Bretons.
Très peu de Bretons.
Mais celle qui chantait une Godiche, c'était Sandrine Kiberlin. C'était pas Romy Schneider.
Ça n'a rien à voir.
Ah. Sandrine Kiberlin.
Oui, elle avait chanté une godiche.
Elle n'est pas bretonne. Elle a joué Sissi.
Je ne sais pas.
Mais, alors, pour nous qui avons vu le film, Bécassine, je tiens à dire quand même ici à tous nos amis auditeurs, à commencer par les Bretons, qu'il n'y a strictement rien d'anti-breton dans ce film.
Rien du tout, bien, absolument
bien
pas. C'est
bien de l'affirmer.
Non,
bien
non, au pas contraire. Du tout.
Ça donne même envie d'aller voir ce magnifique pays où je viens d'ailleurs de tourner un reportage passionnant, je vous l'annonce.
Pour Bretagne. Cette émission, parliez de la Bretagne. Excellente émission.
Oui, pour
la
cette émission. Oui, non, pas de pub à l'antenne. Denis Podalides, vous savez tout jouer, mais savez-vous jouer Antoine de Caunes, c'est moi, quand il fait ça.
Alors ça, je...
Oh.
C'est pas mal, c'est catastrophique.
Un pop sourd. Ah non, pas mal.
Voilà.
Il faut contracter la joue.
Bah oui. Voilà. Il faut être
un petit peu tendu. Un peu grave.
Mais
un peu,
oui. Ouais. Bon, de toute façon, c'est juste pour lancer les pop news.
Et une bande-annonce pour débuter, ce n'est ni une série, ni du ciné.
It's cold! Guess he's too used to the beach.
Hey, Islander, what can I say? Huh? Look, even the sea's turning to ice. Wow!
Un teaser de Kingdom Hearts 3 vient d'être dévoilé, la saga crossover entre le monde Disney et celui de Final Fantasy de retour avec en guest cette fois la Reine des Neiges et même Réponse qui viendront épauler Sora dans cette nouvelle aventure attendue pour janvier 2019 sur Xbox.
Kanye West dans une famille en or. Non, ce n'est ni un Camoulox, ni un canular. Le rappeur mégalo a participé au gâteau aux côtés de la famille Kardashian à la version américaine du jeu. Je vous rappelle le principe, les concurrents doivent deviner les réponses les plus fréquemment données à des questions pas follement stimulantes intellectuellement. Et le présentateur de la version US s'appelle Steve Harvey. Et la question qu'il pose à Kanye et à sa belle-maman est en toute simplicité, donnez une raison qui vous fait penser que Steve Harvey embrasse bien. Réponse de Kanye West.
Lips.
Sa bouche. No shit, Sherlock. Vraiment un génie, ce Kanye.
Première bande-annonce très impressionnante pour First Man, biopic de Neil Armstrong, réalisé par l'oscarisé Damien Chazelle.
Do you question whether the program's worth the cost in money and in lives?
You're down here and you look up and you don't think about it too much, but space exploration changes your perception. And it allows us to see things that we should have seen a long time ago.
We have serious problems.
Dans le rôle titre, celui du premier homme à avoir posé un pied sur la Lune, Ryan Gosling, épaulé par Claire Foy, la reine de The Crown, sortie prévue le 17 octobre.
France Inter. Pop, pop, pop. Antoine Decaune.
Merci Charline. C'est pas Lance Armstrong qui a marché pour la première fois sur la Lune?
Denis
Popo d'Alides. Pop, pop, pop. Ça continue juste après un morceau des Beastie Boys qui s'appelle Sabotage.
We'll be right back.
sabotage. Sabotage, c'est un vrai sabotage, puisqu'on avait prévu de passer Fight for Your Right des Beastie Boys. C'est pas grave, on le repassera demain. C'est un morceau, celui-là, de 1994. Bien, vous écoutez Pop Pop Pop.
Mais parce que sabotage, en fait, c'est un vieux jeu vidéo. Et je pense que là est le lien.
Ah, le lien avec Ronan Crowe, d'accord. Vous écoutez Pop Pop Pop, l'émission de pop culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon... Et nous sommes toujours en compagnie de Denis Podalydès et vient de nous rejoindre notre chroniqueur Ronan Crowe, ou plutôt celui qui se faisait appeler ici même vendredi dernier, Sarah République. Bonjour Sarah République.
Je ne peux pas vous faire confiance Antoine.
Non, jamais. Est-ce que vous pouvez expliquer à Denis Podalydès l'étymologie de votre pseudonyme?
Alors il se trouve, Denis, que je suis normalement dans la vie de tous les jours quelqu'un de plutôt respectable, mais depuis que je fais cette émission, je parle de pornographie, de jeux vidéo, de séries télévisées, et donc Antoine m'a demandé mon nom de pornstar, c'est-à-dire le nom de mon animal, mon premier animal de compagnie, le nom de la rue dans laquelle j'ai habité quand j'étais enfant. Et évidemment, je pense qu'il va vous demander la même chose.
Ah oui,
ouais.
Je le pense aussi.
Je le connais bien, Antoine Decaune, et je pense.
Je sens que j'ai tout mélangé. Répétez la langue, parce que la règle.
Le
du
nom
jeu,
de votre animal de compagnie et la rue dans laquelle vous avez grandi.
Et les deux mis ensemble, ça fait votre nom.
Sarah République.
Sarah République. Parce que Sarah, c'est le nom de ma chienne, et République, rue de la République.
Je suis Phoebe principale. Il est Ulysse.
Ulysse Pierret.
Pierret.
Vous, ça donnerait quoi?
Ulysse Pierret, pourquoi?
Parce que Ulysse, c'est le nom de
l'animal de compagnie. Et Pierret.
Et Pierret, c'est la rue.
Rue Pierret.
Grandi, oui.
C'est le nom. Alors, donc, il s'appelle Spoons.
J'ai envie d'aller voir le film.
Spoons Gallieni.
Spoons Gallieni.
Ouais. C'est pas mal comme nom de pornstar.
Ça fait un peu italien.
Ça vous condamne à un certain type.
Ah non, mais c'est pas ça. Oui. Peut...
Spoons Gallieni.
Ah oui.
Mais écoutez, allez-y, Sarah.
Après des choses aussi passionnantes. Et puisque Antoine, vous recevez un des membres éminents de la Comédie Française et surtout l'une des incarnations des plus belles lettres en France aujourd'hui, je me suis dit qu'on allait parler jeux vidéo. Évidemment, parce que je sais, Denis Podalydès, que vous aimez les jeux vidéo, puisqu'en ce moment, c'est l'E3. Et l'E3, vous êtes fasciné. Vous êtes devant.
L'E3. Ah bah le 3,
c'est un grand moment pour vous.
Ah bah c'est le 3, c'est je reste sans voix.
Eh ben, évidemment.
Racontez-moi.
Je vais
le
vous
3,
en parler un peu. Le 3, c'est le grand événement jeu vidéo à Los Angeles.
C'est celui qui succède aux deux, non?
Oui.
J'ai prévu toutes les blagues que vous alliez faire.
Non,
le 3. Défilé. Le 3, oui. C'est le nom d'un grand rassemblement de jeux vidéo qui a lieu chaque année à Los Angeles.
Ah,
c'est un peu le Festival de Cannes, et vous y étiez cette année avec le film de Christophe Honoré. C'est le Festival de Cannes des jeux vidéo, en gros.
Ah,
tout le monde vient présenter son jeu. Il y a plein d'annonces, plein de fans.
C'est le
3,
alors. C'est le 3.
Le 3, exactement. Mais comme on est sur France Inter, on dit E3.
E3.
Exactement. Mais justement, Denis, moi je voulais vous prouver que les jeux vidéo et le théâtre et la comédie française, c'est exactement la même chose. Et pour ça, je vais utiliser un formidable livre qui s'appelle « Du sang, des larmes et des pixels » de Jason Schreier, qui sort chez Mana Books, et qui nous raconte quoi? Bah, la douleur et la souffrance de créer un jeu vidéo. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fond, il raconte dans ce livre les grands jeux vidéo des dernières années, Uncharted 4 par exemple, Diablo, et il raconte comment en fait, bah, c'est de la souffrance derrière, c'est du travail. Et comme dans une troupe de théâtre, en fait, c'est une troupe en fait des gens qui font des jeux vidéo. Donc il y a un patron, évidemment, il y a un metteur en scène, il y a quelqu'un, un directeur artistique qui crée, qui essaye, et puis il y a des gens qui travaillent, qui parfois effacent ce qu'ils ont fait. Ça vous est peut-être déjà arrivé d'effacer un peu ce que vous avez fait sur un plateau.
Oui, oui.
Voilà, donc ils effacent, ils recommencent, et puis parfois ils chutent, et puis surtout parfois ils n'arrêtent pas de travailler. C'est ce qu'on appelle le crunch. Excusez, le crunch.
Non,
et ben le crunch.
Une chocolat, non?
Je savais que vous alliez le faire, Antoine. Je l'avais noté. Ben, je savais que vous alliez faire crunch, mais c'est une blague.
C'est breton, le crunch.
Une tablette de chocolat.
Non, le crunch en fait, c'est une sorte de burn-out. C'est-à-dire, en gros, c'est le moment où les organismes de jeux vidéo obligent les gens pour terminer à temps. Pour que le film soit prêt ou pour que le jeu vidéo soit prêt, comme à Cannes en fait, et ben ils travaillent tout le temps, et donc ça s'appelle un crunch. C'est ce qu'on apprend dans le livre, c'est-à-dire qu'il y a parfois des studios de jeux vidéo qui obligent, ou en tout cas qui demandent à leurs techniciens de travailler des jours et des jours durant. Évidemment, ils sont mieux payés, mais ça s'appelle un crunch. Et en ce moment, avec le 3, il y a eu des crunchs chez tous les éditeurs de jeux vidéo, chez tous les créateurs de jeux vidéo, pour terminer à temps.
Attendez, ils font pas ça au théâtre?
Ah si,
au théâtre,
crunch. Ouais. Bah on ne mettrait pas ce mot là, mais crunch, là, c'est la première fois que je l'entends pour
si
ça.
Vous voulez.
Bah oui, je prends.
Voilà.
Crunch, moi aussi, j'étais sur la tablette. Un chocolat, mais crunch, burnout. Avant, ça s'appelait dépression. Maintenant, après burnout, crunch.
Et l'idée, c'est que c'est créatif.
Le prochain.
Donc, c'est un burnout créatif.
Ah, c'est un burnout. Mais qui débouche sur une création.
Sur une création.
Ou qui retire de la création.
Ah non. On travaille énormément jusqu'à ce que le produit soit délivré. C'est-à-dire jusqu'à ce que le jeu vidéo. Et là, en ce moment, avec l'E3, en fait, on a plein de studios qui ont fait ça. Qui ont travaillé pour arriver à temps et montrer les premières images aux fans qui étaient réunis à l'E3. Ça, c'est ce que vous allez faire quand vous faites une mise en scène ou quand vous travaillez.
Oui, parce qu'il y a une première, il y a des heures sup comme ça, mais enfin bon,
C'est le même processus, quoi. C'est ce que
oui, Renaud, c'est en gros.
Enfin, ça,
oui,
c'est ouais, expliqué. Puis,
mais là, les jeux vidéo, ça concerne, je sais pas, des millions et des millions de personnes. Une salle de théâtre ne pourra jamais contenir.
C'est ce que raconte très bien Jason Schreier, c'est que c'est vraiment une troupe, c'est 50 personnes, 100 personnes.
C'est pas mal, quand même.
C'est vraiment, ça, voilà, petit à petit, ça se réduit
aussi au fur et à mesure.
C'est des graphistes, c'est des techniciens.
Des scénaristes aussi, j'imagine.
Des scénaristes, effectivement. Mais je vous sens pas complètement convaincu par le jeu vidéo, mais j'ai le jeu vidéo pour vous convaincre, pour vous montrer que votre métier d'acteur et jouer au jeu vidéo, c'est la même chose. Ça s'appelle Detroit Becomes Human, c'est disponible sur PS4. PS4, vous en avez eu.
PS4, je sais même pas ce que
mais
c'est.
Si, mais
c'est une console.
C'est une console, évidemment.
Oui, alors je sais qu'il y a Nintendo et PS4.
Exactement, c'est un jeu disponible sur PS4 du studio Quantic Dream, qui est un studio français, et c'est un jeu absolument bouleversant. Vous allez voir, ça ressemble à ça.
De plus en plus d'androïdes montrent des signes de déviance. S'ils deviennent instables, les conséquences seront désastreuses.
Appuie sur la détente.
Comment savoir si t'es pas un déviant ?
Ce ne sont pas des machines !
Mon nom est Kara.
Je m'appelle Connor.
Mon nom est Marcus.
Ceci est notre histoire.
Je vous sens bouleversé, Denis, par ce...
Ouais, j'entends parler d'androïdes, etc. J'entends, bon, alors, qu'est-ce que tu fais? Je pense aux acteurs qui doivent en avoir énormément, qui doublent.
C'est même plus que des acteurs qui doublent, c'est des acteurs qui jouent, en fait.
Moi, ça me donne envie de vous poser une question, ça.
Ben, je pense que je vais peut-être y répondre, Ulysse.
Comment savoir que vous n'êtes pas un déviant?
Ça, je travaille ici, donc je suis forcément un déviant avec vous, Antoine. J'ai la bonne réponse.
C'est même un critère de recrutement.
C'est un... Donc, pourquoi c'est un jeu bouleversant, en fait, Detroit Becomes Human? Parce que le sujet, c'est justement un monde dans lequel les androïdes seraient devenus des hommes à tout faire. En gros, vous avez à la maison des androïdes qui vous permettent de repasser, de faire la vaisselle, d'aller chercher vos cours, d'aller chercher vos enfants, tout ça. Sauf que ces androïdes-là, on les suppose ne pas avoir d'âme, ne pas avoir d'intériorité. Eh ben, on vous propose de jouer quoi? Leur intériorité. Qu'est-ce qui se passe quand tout d'un coup, vous allez jouer le libre arbitre de ces gens-là? Qu'est-ce qui se passe quand tout d'un coup vous allez leur donner des intentions, des impressions, des sensations?
Oui, je vois le rapport.
Et bah oui, voilà. C'est-à-dire qu'en fait, il y a quelque chose dans ce jeu d'extrêmement troublant. Vous suivez comme ça des androïdes dans un monde futuriste. C'est extrêmement photoréaliste, hein. C'est assez magnifique. C'est des acteurs qui ont été redessinés à l'écran, hein. C'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression de voir un film quasiment. Et on joue ces androïdes-là. Et puis tout d'un coup, on nous demande soit d'obéir aux ordres, soit de désobéir, soit d'avoir une intention un peu amicale avec un personnage ou pas du tout. Et ça change en fait notre relation au monde, mais aussi ça change l'histoire. Et ce qui est absolument magnifique dans ce jeu Detroit Becomes Human, c'est qu'en fait vous pouvez y jouer quasiment à l'infini, puisque l'histoire qu'on vous raconte, en fait, elle a plein d'embranchements, plein de versions différentes. Et donc quand vous terminez une première fois un chapitre, on vous montre tout ce que vous n'avez pas fait. Et donc vous pouvez recommencer. Et si à ce moment-là vous aviez obéi, bah ça aurait changé telle situation. Si à ce moment-là vous aviez souri à un personnage, ça aurait changé telle situation. Et c'est un embranchement infini de situations. Ça, c'est exactement
alors,
votre
attendez,
travail d'acteur.
Attendez. Attendez, vous êtes dit, vous avez poser un défi en disant je vais vous convaincre.
Oui, est-ce que vous êtes convaincu?
Est-ce qu'il vous a convaincu, Denis?
Non.
Non, mais alors je vais.
Non, mais pour me convaincre à me mettre au jeu vidéo, je pense qu'il faut une thérapie, je sais pas.
Mais alors, j'ai un argument de plus. En fait, ça accouche de quoi, ce jeu vidéo? D'une émotion, en fait. C'est-à-dire qu'on a. En fait, il faut vraiment pas avoir joué au jeu vidéo depuis très longtemps pour pas se rendre compte qu'aujourd'hui,
j'ai
le jeu
jamais
vidéo.
Joué.
Mais je vais vous emmener, on va faire des sessions jeux vidéo ensemble.
Je confesse, j'aimerais essayer un jeu. Mais il faut
c'est vraiment le jeu parfait pour commencer.
Sauf erreur de ma part, c'est le produit culturel le plus vendu en France.
Exactement.
C'est vrai.
Mais c'est surtout, contrairement à ce que certains peuvent penser, c'est vraiment un produit d'émotion. C'est-à-dire que vraiment ce jeu-là produit une empathie avec les personnages et surtout questionne l'empathie. Est-ce que je décide que mon androïde que je gère, il va obéir aux ordres, il va désobéir? Est-ce que la petite fille qui est poursuivie par son père dans le film, est-ce que je vais la sauver ou pas? Et si je la sauve, est-ce que ça va moi me mettre dans une sale position? Tout ça, c'est de la question d'interprétation, d'incarnation en fait. Et c'est ça que vous faites aussi au théâtre. C'est de l'incarnation.
Ouais. Alors, mais comme je le fais au théâtre, j'aurais pas envie
de faire rentrer chez
trop le bureau.
C'est pas un loisir.
Avec un androïde sur qui je vais m'énerver, un crétin, fais pas ci, fais pas ça. Bah non, parce qu'on s'identifie à l'androïde.
Exactement. Oui. La question que je me posais, puisque vous connaissez bien Eric Ruff, est-ce que vous pouvez lui demander si c'est pas possible de transposer ça à la Comédie Française, d'avoir Super Mario à la Comédie Française, à Salle Richelieu?
Je vais l'appeler tout de suite après.
C'est vrai, ce serait super.
Excellente idée.
Moi, je trouve que c'est une super idée d'avoir Uncharted 4.
Super Mario.
Bah ouais, Uncharted 4, les plus belles séquences d'Uncharted 4 à la Comédie Française.
Mais vous y jouez à ces jeux?
Mais
vous l'avez essayé.
Mais j'y joue chez moi. Je vous invite.
Donc c'est sorti,
Denis,
ce Detroit Becomes Human.
C'est sorti. Je vous invite chez
moi. Combien ça coûte un jeu vidéo comme ça?
Ça coûte entre 50 et 70 euros.
Ah oui.
Bah voilà.
Non, je croyais que c'était plus cher.
C'est
addictif, non?
Non,
après,
c'est pas si addictif que ça. C'est vraiment un jeu.
Addictif.
Mais non, c'est un jeu émotionnel. C'est addictif, ça voudrait dire.
Moi aussi, je joue. C'est très addictif.
Mais vraiment, ce jeu-là, c'est une expérience.
On ne peut pas s'arrêter, même quand on n'en peut plus, on s'arrête pas.
Ah si si non mais il y a vraiment c'est une expérience, c'est quelque chose dans ce jeu-là qui tient de l'émotion.
Sarah
et vraiment, je vous conseille d'y jouer. Detroit Become Human sur PS4.
Public, je me permets de vous interrompre. Sarah Republic d'ailleurs, Nicolas Sarkozy, il y aurait peut-être quelque chose à faire. OK. Bref, c'est pas le moment
ma
de parler.
Ma mère vous
de ça.
Écoute Antoine, vous le savez.
Non, c'est le moment pour moi de descendre à la cave chercher le dernier vinyle de l'émission. Allez, j'y vais.
Ma petite chérie, mais qu'est-ce que t'es mignonne, hein?
Bonjour madame, c'est à moi que vous parlez là? Je ne suis pas votre petite chérie, et d'ailleurs qui êtes-vous, vous? Ah, Chantal Goya, qu'est-ce que vous faites là? Non, attendez, non, écoutez-moi, Chantal, arrêtez de chanter, j'ai rien demandé moi, hein. Vous avez déjà traumatisé toute une génération, on va peut-être arrêter les frais là, ok? Regardez, il y a même... Regardez, voilà, voilà, il y a Henri, mon cochon, qui se met à flipper. C'est mal... Calme-toi, Henri, calme-toi, c'est rien, c'est fini, je t'expliquerai après qui est la dame. Non, non, Chantal, Chantal, arrêtez, arrêtez, c'est une cave ici, c'est pas l'annexe de la tournée Star 80. Oh, oh, oh. Bon, écoutez, c'est la première fois que je vais faire ça, mais je remonte, moi, c'est un peu too much pour moi, là. Allez. Vous pouvez continuer à chanter, hein, j'ai refermé la trappe, là. Oui, voilà, c'est ça, continue. Allez. Bon, bah, faut se désinfecter les oreilles, hein. Allez, un petit Elvis, non? Repeat up, ça vous va?
Well, it's Saturday night and I just got paid. I'm fool about money, don't try to save. My heart says go, go, have a time. It's Saturday night, baby, and I'm feeling fine. I wanna rock it. I wanna rip it. I wanna shake it out. Gonna ball it up. I wanna rip it up. And a ballin' night. Me a date and I won't be late. I picked her up in my 88. She ain't going down by the social hall. When the joint starts jumping, I'll have a ball. I wanna rock it up. I wanna shake it up. I wanna rip it up. Gonna ball it up. I wanna rip it up. And a ball tonight. But I don't care if I spend my dough, cause tonight I'm gonna be a one, a happy soul. I wanna rock it up. I wanna rip it up. I wanna shake it up. Gonna ball it up. I wanna rip it up. And a ball tonight. Well, it's Saturday night and I just got paid. I'm fool about my money, don't try to save. My heart says go, go, have a time. Well, it's Saturday night, baby, and I'm a feeling fine. I'm gonna rock it up. I'm on a rhythm, I'm on a shake it up, I'm on a ball it up, I'm on a rhythm, I'm on a ball tonight.
Repeat Up, c'est un morceau de 1971 d'Elvis Presley, c'est dans Pop Pop sur France Inter. 71, il faut que je vérifie ça quand même. Bon, enfin voilà, c'est ici que les Athéniens s'atteignent, comme j'ai coutume de dire. Merci Denis Podalydès.
Merci
d'être
à vous.
Venu passer cette pop-heure en notre compagnie. Bécassine, le film de votre frère Bruno, avec un point d'exclamation, ça sort la semaine prochaine le 20, c'est pour tous, hein, de 7 à 77 ans. Allez-y tous, amis bretons compris, vous ne le regretterez pas. Demain, dans Pop Pop Pop, le photographe Franck Courtès et eux. Eh oui. Eh oui, moi aussi, quand je t'ai vu, je me suis dit pourquoi pas vivre tout nu.
Parce qu'il fait froid déjà.
Non, ça se réchauffe en ce moment. Bon, c'est le groupe Miel de Montagne qui sera en live dans la cave de l'émission. Mais avant demain, si vous avez aimé l'émission, retrouvez-la sur franceinter.fr. Si vous êtes un Jones 3.0 ou un Yeuve à la pointe, suivez-nous. Plutôt comme disent ceux qui font des tutos naturistes sur YouTube, abonnez-vous. Un peu cette chaise en plastique à notre podcast. Merci à l'équipe de Pop Pop Pop. Céline, il a à la réalisation, à la technique Pierre-Yves de Rollin, Aurélien Esvan, notre rédacteur en chef, Fanny Leroy, Claire-Sophie Collet, nos attachés de production, à la programmation musicale Djoubaka et Simon Arestat, notre stagiaire.